La formation en entreprise, elle est vraiment pratique. C'est-à-dire que le formateur aura pour tâche de transmettre les compétences à l'apprenti, propre au métier qu'il a choisi d'apprendre. À l'école, ils vont compléter par des connaissances théoriques. Si je vous donne un exemple, au niveau peut-être des matériaux, selon le métier, ils vont également avoir des cours de culture générale, mais c'est plus théorique.
Donc les deux se complètent.
Ah, tout à fait.
On a parfois cette idée qu'en faisant un apprentissage dans une entreprise, on sera formé par d'autres employés de la boîte, donc c'est le cas. Mais ces gens, ils connaissent leur métier, c'est des professionnels, ils arrivent en général à bien faire passer leur message.
Dès le moment où une entreprise a une autorisation de former, c'est parce qu'elle a, en principe, dans la majorité des cas, le même CFC pour lequel elle va former un apprenti. Donc oui, ils connaissent leur métier.
Il y a des règles que les entreprises doivent respecter pour pouvoir former des apprentis et des conditions où,
Vous pensez à, pour obtenir l'autorisation de former? Alors, outre le fait qu'ils doivent avoir le CFC dans le métier ou une étude supérieure ou dans certains cas un certain nombre d'années, mais dans la majorité des cas, ils doivent avoir le même diplôme, le même CFC. Après, il y a des règles, les droits et les devoirs du formateur. Donc oui, c'est large, c'est déjà le principe du respect des lois, des bases légales, qui sont fédérales ou cantonales ou par rapport à l'ordonnance de la formation professionnelle du métier dans lequel ils forment l'apprenti, oui.
Est-ce que les formateurs en entreprise bénéficient de formations continues pour toujours être à jour au niveau des cours qu'ils donnent?
Alors les formateurs en entreprise ne donnent pas de cours, ils enseignent leur métier. Ils vont apprendre à un menuisier à fabriquer des meubles en bois et ce genre de choses. Donc des cours... Non. Par contre, dès le moment où il y a une modification de l'ordonnance de la formation ou une modification du plan de formation, le plan de formation, c'est ce qui permet aux formateurs de s'y retrouver. Voilà, les 6 premiers mois, je dois voir ça. Le deuxième semestre, il faut aborder ces choses-là. Ce qu'ils font en parallèle à l'école aussi et dans les cours inter-entreprises. Mais les cours, les apprentis les suivent à l'école.
À l'école.
L'autre chose... dont les formateurs doivent suivre, en fait, c'est le cours de 40 heures. Mais là, c'est pas du tout par rapport à leur métier, mais plus au niveau légal, je dirais, au niveau du contrat d'apprentissage, au niveau de la sélection de son apprenti, au niveau des résiliations et des lois.
Une question qui risque d'intéresser les jeunes, si on est en formation dans une entreprise, est-ce qu'on est payé ?
Oui, bien sûr. C'est pas un très grand salaire, on est d'accord. Et la loi ne fixe pas, sauf si il existe une convention collective de travail dans le métier qu'ils ont choisi, mais ce sont des salaires qui sont conseillés.
Donc voilà. C'est l'entreprise qui fixe les salaires.
Disons que les ORTRA nous donnent, les différents organismes du monde du travail donnent une ligne. Conseil des salaires et il est bien de les respecter parce que, comme vous le savez, les jeunes à l'école discutent entre eux et si un jeune va se rendre compte que son salaire est nettement plus bas que celui des autres, ça va peut-être pas bien se passer après.
Donc ça c'est pour la formation duale, si on suit une formation à plein temps à l'école, on n'a pas de salaire mais on a plus de vacances, ou pas forcément?
Alors oui, ils ont beaucoup plus de vacances, ça c'est un fait, parce que les apprentis en dual ont 5 semaines jusqu'à 20 ans. Après, de nouveau aussi, une convention collective dit que voilà, il y a 6 semaines, ils auront 6 semaines, mais pas plus. Tandis qu'à l'école, ils ont 13 semaines de vacances, en effet. Mais pour ce qui est des salaires... La majeure partie des écoles plein temps n'offrent pas de salaire à leurs apprentis. Par contre, dans certaines, comme le santé sociale, en première année, ils n'ont pas de salaire. Mais en deuxième et troisième année, ils ont très, très, très petit salaire. C'est vraiment minime. Mais comme ils effectuent des stages en institution, ils ont un tout petit salaire.
On est toujours avec Christina Vouta, conseillère en formation à l'Office de l'enseignement secondaire du deuxième degré et de la formation professionnelle. Avec vous, on parle de la formation reçue dans l'entreprise. Et qui dit formation, dit évaluation. Est-ce que la formation que l'on reçoit en entreprise est évaluée?
Alors, elle sera évaluée par les procédures de qualification à la fin de l'apprentissage.
On peut appeler ça un examen, oui, la procédure de qualification. C'est l'examen final, en fait.
Oui, pratique.
D'accord, pratique.
Oui. Voilà, ça c'est une évaluation, mais qui est finale un peu tard, on est d'accord. Mais en tous les cas, l'entreprise a le plan de formation qui lui permet de suivre l'évolution de son apprenti. Chaque 6 mois, ils ont des rapports de formation à remplir. Mais l'apprenti peut sans autre, et même je lui conseillerais de télécharger ce plan de formation qui lui permet d'avoir un suivi de son évolution, des objectifs à atteindre, des compétences à acquérir. Ce serait un plus pour lui s'il a des doutes peut-être quant à sa formation ou s'il lui semble, en discutant avec ses collègues apprentis à l'école, qu'il ne voit pas les mêmes choses ou qu'il n'a pas vu un tas de choses.
Vous dites télécharger ce document sur quel site internet ?
Sur le site du CEFRI.
www.cefri.ch. Une question reçue par SMS. Le métier que j'apprends me plaît beaucoup, mais ça ne se passe pas du tout bien avec mon patron. Est-ce que je peux essayer de changer d'entreprise en cours de route sans que ça bouleverse mes cours dans une école professionnelle ?
Il y a deux choses. Tout d'abord, j'aimerais dire à cet apprenti qui nous téléphone, à Madame Tuchère ou à moi. Madame Tuchère étant ma collègue, nous sommes deux conseillères à l'office. Et qu'on en discute.
Rappelons peut-être le numéro.
032 486 7090. Et voir ce qui se passe réellement. Hein, parce qu'il peut arriver que c'est peut-être un problème de communication ou de choses non dites ou d'interprétation ou de supposition. Ou peut-être que ça se passe réellement, réellement mal. Peut-être qu'en faisant une séance avec l'apprenti et son formateur, ou s'il ne le souhaite pas, ou selon la problématique en fait vécue, on va prendre les dispositions nécessaires. La deuxième question, c'est oui, si c'est grave, ou si c'est vraiment pas envisageable de continuer, ou si peut-être que, je sais pas, ils peuvent pas s'entendre. Enfin, de nouveau, ça dépend de la problématique. Mmh. Oui, l'apprenti pourra changer d'entreprise, il faudra qu'il se retrouve une nouvelle place d'apprentissage. Et en ce qui concerne l'école, dans le canton de Berne, il a 3 mois pour se retrouver un nouveau contrat, enfin pour re-signer un contrat d'apprentissage. Et à l'école, bah l'école sera avertie évidemment, puisqu'on va résilier son contrat. Et il sait que pendant 3 mois, il peut suivre les cours sans autre.
Christine Avouta, on a encore reçu un autre SMS. Est-ce que c'est le maître d'apprentissage qui inscrit le futur apprenti ?
Alors, le maître d'apprentissage va remplir les 3 contrats d'apprentissage qu'il va envoyer à l'Office de la formation professionnelle à Tramelan. Nous, on va lui en retourner un, approuvé. On va en retourner un à l'apprenti. Un reste chez nous, bien entendu. Et nous inscrivons son apprenti à l'école. Ce n'est pas lui qui entreprend les démarches d'inscription de l'apprenti dans sa future école professionnelle. C'est l'Office.
C'est vous qui faites directement l'intermédiaire.
Oui.
Dans la région, est-ce que n'importe quelle entreprise peut engager des apprentis ?
Non. Ah non. Pour obtenir l'autorisation de former, il doit déjà avoir les diplômes nécessaires. Ensuite, il doit avoir le matériel, il doit avoir une place d'apprentissage correcte. Hein. Si je prends un employé de commerce, c'est clair que le ou la jeune devra avoir une place de travail avec un ordinateur. Mmh. Ensuite, dans des métiers plus techniques, comme l'artisanat, ils doivent avoir les machines qui sont demandées. Il y a une liste d'assortiments. En l'occurrence, il a quasi tout, mais qui manquerait peut-être, je ne sais pas, moi, si je prends les menuisiers, il manque la commande numérique pour couper les planches, voilà. Le spécialiste professionnel qu'on va envoyer dans l'entreprise pour vérifier et expliquer à quoi s'engage le formateur et vérifier si tout peut correspondre pour une formation idéale. Et s'il constate qu'il manque quelque chose, il va nous le signaler. Et nous, dans l'autorisation de former, on va peut-être spécifier que l'apprenti, durant 1 mois, 3 mois, selon le manque, en fait, selon la lacune, qui devra aller dans une entreprise, une autre entreprise formatrice pour compléter sa formation.
Est-ce qu'il y a une liste disponible où on retrouve toutes les entreprises qui forment des jeunes ?
Bien sûr. Alors, cette liste peut être obtenue à l'orientation professionnelle à Tavannes ou chez nous, à l'Office d'information professionnelle.
Pour trouver une place d'apprentissage, on doit postuler dans une entreprise. On peut s'attendre à quoi ? Un entretien d'embauche ? Faut préparer une lettre de motivation ? Un CV ? Comment ça se passe ?
Les jeunes, quand ils sont 8, 9e année, C'est clair que c'est difficile à cet âge-là de savoir dans quoi on va se lancer. Alors, ben, d'une part, ils ont la possibilité d'aller à l'orientation professionnelle chez nous à Tavannes ou à Bienne pour avoir déjà une idée. Mais ensuite, ils vont faire des stages hein, durant leur 8e et 9e année. Durant ces stages, ça va peut-être leur donner une idée. Ce qui se passe également, c'est que peut-être que l'entreprise dans laquelle ils ont effectué leur stage va leur faire un contrat pour la suite d'apprentissage de 3 ou 4 ans. Faire un CV, une lettre de motivation, non. Après, peut-être, si l'entreprise le demande. Mais déjà, il faut qu'ils trouvent une place de stage et puis dire si ça leur plaît, qu'ils aimeraient faire un apprentissage là. Et pourquoi pas, après, faire une lettre de motivation et un curriculum vitae, oui, peut-être.
Le bulletin scolaire, c'est important aussi ?
Oui et non. Alors oui, parce que selon les métiers, il y a des métiers qui sont plus difficiles et scolairement qui demandent beaucoup. Donc c'est clair que si il provient de la filière générale, il devra beaucoup plus travailler après. En même temps, ce qui se passe aussi, c'est que peut-être que le jeune qui est à l'école, il ne voit pas le but de l'école, de faire du français, de l'histoire, des maths, de la science, de l'allemand, de l'anglais. Tandis qu'après, en apprentissage, il va trouver le lien. Enfin, ce qu'il va apprendre à l'école, les connaissances professionnelles, elles correspondent à ce qu'il apprend en entreprise. Donc, il a un but, il sait pourquoi il apprend ça.
Et si on sort d'école secondaire, mais qu'on n'est peut-être pas encore prêt à se lancer dans un apprentissage, qu'on a besoin de plus de temps, on peut prendre la voie de la préparation professionnelle.
La PP ou la dixième année, comme on l'appelle encore. Alors, je pense que pour les jeunes qui ne savent pas dans quoi se diriger, c'est très bien de faire une APP. Pour les jeunes qui ont, durant leur scolarité obligatoire, redoublé, et qui n'ont pas, enfin qui ont fait 9 ans d'école obligatoire, mais pas la 9e année, c'est très bien aussi. Parce que pour commencer un apprentissage, ou d'autres, je veux dire en dual ou à l'école plein temps, ils auront des lacunes scolaires. Donc une des APP est justement pour ces lacunes scolaires. Donc je pense que c'est bien, oui.
On a jusqu'à quand pour s'inscrire à cette préparation professionnelle ? Est-ce que maintenant c'est déjà trop tard ?
Vous savez, c'est comme dans tout. C'est les jeunes qui aimeraient absolument faire un apprentissage dual d'employé de commerce, ils vont absolument trouver quelque chose. Mais peut-être qu'ils vont également s'inscrire à l'école de commerce plein temps. Et c'est une roue de secours quelque part, si j'ose me permettre. La dixième année, c'est la même chose. Il y a des cas où il faut absolument faire une dixième année ou peut-être un pré-apprentissage, hein, parce que dans le pré-apprentissage, il y a aussi 2 jours d'école plein temps, où c'est de la culture générale, où c'est vraiment du français, des maths, je veux dire, ça leur permet peut-être de rattraper le retard qu'ils ont eu au niveau scolaire pour entreprendre l'apprentissage.
Christina Vouta, aujourd'hui mercredi 15 mai, si j'ai pas de place d'apprentissage et que le délai pour m'inscrire dans une école professionnelle est passé, qu'est-ce que je peux faire ?
Oui, alors, appeler l'école qui propose le pré-apprentissage. Ils ont toujours, ils gardent 2 ou 3 places en réserve pour des cas comme ça. Mais comme l'a dit Monsieur Sommer tout à l'heure, oui, ce serait bien de... C'est comme le plein temps, hein. Normalement, les inscriptions, ce sont jusqu'au mois de décembre. Ensuite, il y a les examens. Peut-être qu'il y a des résiliations parce qu'ils ont peut-être trouvé une passion duale, donc ils résilient le plein temps. Ça peut arriver. Généralement, c'est en cours d'année parce qu'une personne est en plein temps, elle passe en duale parce que ça ne correspond pas ou inversement. Mais
il faut anticiper.
Ce serait bien, oui.
On a reçu un message qui dit ceci. Plus un avis qu'une question, n'étant pas très scolaire, j'ai choisi l'apprentissage plutôt que les études. Je pense qu'actuellement, l'école professionnelle devient trop scolaire et démotive les non-scolaires comme moi. Je ne suis pas sûre que j'aurai terminé mon apprentissage.
Oups.
Une réaction, peut-être ?
Oui, alors, devient trop scolaire. Alors, il y a la partie, généralement, c'est demi-journée, demi-journée. Une demi-journée, ce sont les connaissances professionnelles, c'est-à-dire propres à leur pratique, hein, au métier qu'ils ont choisi. Et l'autre demi-journée, c'est de la culture générale. Alors oui, la culture générale, ça continue, si j'ose dire, le processus scolaire. Ils vont de nous faire du français, mais même pas. Ils vont voir, le droit. Franchement, je crois que ce n'est pas la branche préférée des jeunes. Mais d'un autre côté, un jeune qui a des difficultés scolaires, il peut prendre des cours d'appui, il peut avoir de l'aide. Plutôt que d'arrêter son apprentissage, j'aimerais lui dire de nous appeler.
Rappelons peut-être le numéro de téléphone.
408-06-07-90, s'il vous plaît, monsieur ou mademoiselle, appelez-nous.
Et revenons dans le monde de l'entreprise, il existe une sorte de surveillance des entreprises formatrices.
Alors, ce qui s'est passé, en fait, la surveillance, c'est simplement l'ORTRA décide de ce qui doit figurer dans l'ordonnance, dans la loi. Et nous, on applique cette loi. Hein, ce n'est pas nous qui disons qu'il faut faire comme ci, comme ça. C'est l'ORTRA. On ne fait qu'appliquer ça. Ce qui se passait, c'est qu'avant la révision de la loi sur la formation professionnelle, il y avait des commissaires qui allaient visiter les entreprises comme ça, sans qu'il y ait une raison, si ce n'est de regarder si ça se passait bien. Et principalement pour des raisons économiques, le canton de Berne a supprimé cette surveillance de l'apprentissage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ma collègue, Mme Turcher et moi, on intervient en entreprise, on va dans les entreprises. Lorsqu'il y a un apprenti qui nous appelle ou lorsqu'il y a un problème ou un souci rencontré. Ce qu'on a fait aussi depuis l'année passée, c'est qu'on essaye de visiter les entreprises, des métiers à risque. Alors,
quels sont les métiers à risque ?
Voilà, c'est pas forestier bûcheron. ce sont des métiers pour lesquels les horaires ne seront pas toujours respectés, comme les spécialistes en restauration, les cuisiniers, enfin ces métiers-là, quoi.
Très rapidement, si les parents ou les enfants ont encore des questions concernant l'apprentissage, est-ce qu'ils peuvent vous contacter ?
Mais bien sûr.
Rappelons le numéro de téléphone, peut-être encore une fois.
032-486-07-90.
Il y a un site internet aussi ?
Un site internet, oui, il y a le site www.erz.be.ch. Mais sinon, il faut qu'ils nous appellent ou qu'ils nous envoient un mail. Mais sur le site de ERZ, ils vont trouver nos coordonnées de la section francophone.